Le journal Antoine Geoffin.
Bonjour à tous. Le groupe État islamique revendique l'attaque contre un convoi militaire français au Mali. Hier matin, un soldat de l'opération Barkhane est mort dans l'explosion d'un engin improvisé au passage du blindé. La veille, dans la même région du nord-est du pays, ce sont 49 soldats maliens qui ont trouvé la mort lors d'une attaque que le gouvernement de Bamako a qualifié de terroriste et que là aussi Daesh a revendiqué. La mort du brigadier français s'ajoute aux pertes récentes de l'armée française dans cette région, Franck Cognard.
Le brigadier Ronan Pointeau est le troisième mort au Mali du 1er régiment de Spey. En février 2018 déjà, deux autres sous-officiers de cette unité basée à Valence avaient été tués déjà par l'explosion d'une mine artisanale, déjà dans la région de Ménaka. C'est une région où il y a deux ans, l'opération Barkhane avait fait porter ses efforts pour réduire l'activité des groupes djihadistes. Pendant un temps, un calme relatif était revenu dans la zone. La route nationale 20, la route de la mort qui relie Ménaka à Gao, était même redevenue un peu plus sûre. Mais les groupes armés terroristes avaient alors migré vers l'ouest. Et aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que les djihadistes, dont certains se réclament de l'État islamique, remontent en puissance dans cette région du Sahel, baptisée région des trois frontières, Mali, Niger et Burkina. Dans un communiqué publié hier, la ministre des Armées évoque la dégradation sécuritaire sur place. En effet, pas loin de Ménaka se trouve le camp d'Indeliman, attaqué vendredi par les djihadistes. Une cinquantaine de soldats maliens y sont morts. Malgré ses succès militaires, malgré ses moyens, l'opération Barkhane peine au Sahel à faire revenir une sécurité pourtant essentielle.
Une personne tuée cette nuit à Bagdad dans des affrontements entre police et manifestants. Ces derniers investissent depuis plusieurs jours la célèbre place Tahrir pour réclamer la chute du régime. Depuis le 1er octobre, au moins 250 personnes sont mortes en Irak dans des manifestations et des violences, bilan fourni par les autorités. C'était hier la 12e journée mondiale du droit à mourir dans la dignité, de nombreuses manifestations en France pour demander l'accès à l'euthanasie et au suicide assisté. Aujourd'hui, quelle est la situation sur la fin de vie dans notre pays ? Explication de Cosima Mezidi Alem.
La loi de 2016 sur la fin de vie en France donne aux patients en soins palliatifs le droit à la sédation terminale. Une pratique très critiquée, notamment par Jean-Luc Romero, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité.
On vous endort, on arrête de vous hydrater, de vous alimenter, et vous pouvez mettre 3 semaines à mourir de faim et de soif. Donc il y a un moment, il faut sortir de l'hypocrisie, d'une euthanasie qui ne dit pas son nom, sauf que c'est une euthanasie à petit feu, et c'est pas ce que demandent les gens. Les gens, ils veulent pouvoir partir en quelques minutes, entourés des leurs, leur dire au revoir, et partir sans douleur et sans souffrance.
Mais bien que l'euthanasie ne soit pas autorisée en France, de nombreux médecins la pratiquent pour aider leurs patients. Un écart entre la loi et la pratique, car en réalité, l'État n'autorise pas l'euthanasie, mais ferme les yeux sur ses actions.
Il y a des médecins qui le font par compassion et c'est très bien, mais il y a aussi des gens qui reçoivent des produits laitaux qui n'ont rien demandé. Ces pratiques illégales, eh bien, elles ont souvent des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aidés sans avoir rien demandé, et ça, moi, j'y suis aussi opposé, comme, par contre, plein de gens, eux, ne sont pas aidés alors qu'ils demandent.
Un débat très complexe en France, qui est d'ailleurs l'un des pays les moins avancés en Europe et où le taux de suicide chez les seniors est le plus élevé.
Bientôt, un geste de reconnaissance financière pour les victimes de pédophilie au sein de l'Église catholique. La décision de principe est actée, dit le porte-parole de la Conférence des évêques de France. Les modalités de cette allocation seront soumises au vote des évêques samedi prochain à Lourdes, mais les contours sont déjà connus, Jérôme Jadot.
Une allocation de reconnaissance de la souffrance des victimes, c'est le nom retenu pour ce geste financier. Depuis un an, un groupe de travail planche sur le sujet. Il prévoit un dispositif pour l'ensemble des victimes d'actes pédophiles, qu'il y ait déjà eu une procédure judiciaire avec indemnisation ou que les faits soient prescrits. Le montant, lui, sera forfaitaire, précise Thierry Magnin. C'est le porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que d'autres de faits qui paraissent moins graves. Donc nous ne sommes pas en train de faire des gradations dans la souffrance. Des personnes ont souffert. C'est une reconnaissance, une forme de manifestation de la solidarité que nous devons vivre avec elles. La décision de principe est actée. Ce sont les modalités et le timing de tout cela qui sera déterminé.
Déterminer notamment le montant de ce geste, ce sera en milliers d'euros, indique-t-on. Environ 200 victimes pouvant y prétendre ont déjà été identifiées, mais il y en aura sans doute davantage. Pour le financement, cela doit se faire par un appel aux dons. Les ecclésiastiques coupables d'actes pédophiles pourront y contribuer. Les premiers versements sont attendus début 2020.
La météo et la tempête Amélie continuent sa progression vers les terres. 15 départements du centre sud-ouest en vigilance orange au vent violent. À 8h30, 100 000 foyers étaient privés d'électricité dans le sud-ouest. Les Alpes-Maritimes et la Corse du Sud sont eux en vigilance orange pluie inondation. Côté température, vous avez 12 ce matin à Paris, 19 à Marseille, cet après-midi 14 à Strasbourg, 20 degrés à Nice.